Bien, bonjour mesdames, puisqu'il n'y a que des dames d'ailleurs. Je vais vous parler donc des solutions qui existent pour lorsqu'on est un aidant, comment être rémunéré. On verra que c'est plus souvent d'ailleurs un dédommagement que une rémunération proprement dite. Alors, en préambule, juste pour que tout le monde soit bien d'accord sur une définition de l'aidant d'un proche, il y a aujourd'hui une définition officielle qui explique bien que dès lors que on va accompagner régulièrement, pas forcément quotidiennement, mais régulièrement un proche, qui soit d'ailleurs handicapé, jeune ou adulte, ou une personne âgée affectée par les conséquences du vieillissement et donc une dépendance, mais aussi un conjoint ou une conjointe qui pourrait présenter une perte d'autonomie. Alors, juste pour rappeler aussi, pour celles qui seraient aidantes ici, il y a aujourd'hui à peu près 11 millions d'aidants de proches qui vont prendre donc en charge régulièrement un proche, tant dépendant par rapport à un handicap que par rapport à aux conséquences du vieillissement, pardon. Et sachez que 50% à peu près des aidants aujourd'hui exercent en parallèle une activité professionnelle, ce qui rend parfois d'ailleurs difficile, très difficile le quotidien, donc de concilier une vie professionnelle et une vie, ou plutôt un rôle d'aidant. Alors, ça n'a pas marché. Alors, on va démarquer deux types d'aidants, puisque la thématique, c'est voilà, la rémunération ou le dédommagement lorsqu'on on effectue le rôle d'aidant. On va voir que selon qu'on accompagne un proche handicapé ou un proche âgé de plus de 60 ans, on va pouvoir bénéficier de deux aides différentes, en sachant qu'aujourd'hui, et c'est encadré par une loi, seules les personnes accompagnant un proche handicapé peuvent bénéficier d'un statut, puisqu'aujourd'hui, l'aidant proche, en général, globalement, n'a pas de statut, même si on en parle de plus en plus, il n'y a pas de statut officiel, hormis donc l'aidant familial, l'aidant de proche qui accompagne une personne handicapée et reconnue comme telle. Et là, vous voyez, on parle de la loi de 2005, la loi sur le champ du handicap, qui reprend bien la définition de l'aidant. Et c'est bien parce que ce statut d'aidant sur le champ du handicap qu'il bénéficie d'un statut, d'une reconnaissance au travers de la loi. Alors, les différentes solutions pour être rémunéré ou dédommagé. On va... Ça marche pas, ce truc. Hein. Alors... Ce que je vous propose, je déroule et puis après on garde un temps pour les questions, il n'y a pas de problème. Alors on a vu précédemment que 50% des aidants qui accompagnaient un proche avaient une activité professionnelle par ailleurs. Ils peuvent être amenés soit à réduire cette activité professionnelle, voire parfois même de l'interrompre. Et on va voir que dans certains cas, certaines conditions, cet aidant va pouvoir être éventuellement salarié de la personne qui l'accompagne, soit recevoir un dédommagement, et on verra que selon que cet aidant est sur le champ du handicap ou sur le champ de la gérontologie, c'est-à-dire donc accompagner un proche âgé, le traitement, ou plutôt les solutions, seront différentes. D'une part, si l'aidé a plus de 60 ans, et vous repérez bien cet âge parce que on a une configuration aujourd'hui au niveau des lois qui fait que si vous avez plus de 60 ans, vous pouvez être considéré comme handicapé, ou du moins avant 60 ans, vous êtes toujours dans le champ du handicap, et après 60 ans, vous risquez, si précédemment on n'est pas pris soin de rentrer dans le champ du handicap, on verra tout à l'heure, on est considéré comme aidant d'une personne âgée. Et le traitement va être assez différent puisque dans le cas de l'accompagnement d'une personne âgée de plus de 60 ans, ça va être donc l'allocation personnalisée à l'autonomie au travers de laquelle on pourra éventuellement être rémunéré. Et si on est sur le champ du handicap, donc moins de 60 ans, on va avoir une possibilité de rémunération grâce à la prestation de compensation du handicap. Dans tous les cas de figure, n'oubliez pas que l'emploi direct est possible. Et là, à ce moment-là, il y a des solutions, notamment qui simplifient l'emploi direct au travers du CESU. Je crois d'ailleurs qu'il doit y avoir un stand sur le salon à ce propos. Alors tout d'abord, l'APA. Là. L'allocation donc personnalisée d'autonomie destinée aux personnes âgées donc de plus de 60 ans est ouverte aux personnes à domicile ou en établissement. Il n'y a pas de dichotomie de fait volontairement, mais on va rester là dans le cadre du maintien à domicile. Donc cette allocation est attribuée dans le cadre du maintien à domicile. On verra tout à l'heure qui s'appuie ou plutôt repose sur l'élaboration d'un plan d'aide. Avec un montant maximum, on verra les chiffres tout à l'heure, et on verra notamment que tout repose sur l'évaluation de la dépendance de la personne qu'on accompagne, au travers donc d'une grille qui s'appelle la grille Agir, qui va de 1 à 6. Alors, tous autant que vous êtes ici, vous devriez être normalement numéro 6, puisque vous êtes entièrement autonome. Et plus on va avoir un niveau de dépendance important, plus on va se rapprocher du numéro 1, en sachant qu'évidemment, numéro 1 et numéro 2 plutôt évaluent la dépendance de personnes très fortement dépendantes. En sachant donc que le plan d'aide va varier en fonction de ce chiffre de GIR, moins il est élevé, on va dire, ce chiffre, dès qu'on se rapproche de 1, 2 ou 3, on verra tout à l'heure les montants, plus le montant sera élevé et plus le plan d'aide, donc, pourrait être important. Alors, conditions à remplir. On a vu qu'il fallait être âgé de plus de 60 ans, avoir une perte d'autonomie qui peut être liée, d'ailleurs, à un état physique ou à un état mental. Et on parle là de la nécessité d'accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie. Donc la liste des actes, des besoins essentiels de la vie, c'est la toilette, l'aide à l'habillage, l'aide au déplacement, l'aide à la prise de repas ou la préparation des repas, donner les médicaments, etc. Possible ce truc. Alors, toute personne âgée de plus de 60 ans peut bénéficier d'un plan d'aide et donc d'une cotation GIR. Il suffit d'en faire la demande auprès des services sociaux, soit de votre mari, soit de votre mairie, pardon, soit du conseil général, voire du CCAS. Et une équipe médico-sociale, en général, c'est une assistante sociale qui se déplace au domicile de votre proche et qui va, au regard d'une grille, va coter et évaluer les possibilités de cette personne par rapport aux actes de la vie quotidienne dont on a parlé précédemment. et va donc évaluer le montant du GIR qui sera ensuite validé avec le complément de cette équipe médico-sociale, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau du conseil général, un médecin va se pencher sur le dossier et valider cette cotation. Je vous encourage d'ailleurs au passage, si vous étiez amené à être dans ce type de démarche, d'être présent lors de l'évaluation de la dépendance de votre proche, parce que il est toujours important de donner son avis par rapport à un certain nombre de situations. C'est encore plus vrai quand votre proche a, par exemple, des troubles de comportement ou même des troubles d'élocution, tout simplement parce qu'il aura parfois du mal à expliquer sa situation. C'est pas vrai, ça. Alors, une fois que ce plan d'aide a été validé, on va pouvoir proposer, plutôt l'équipe médico-sociale va vous proposer un certain nombre de solutions, qui peut être par exemple la prise en charge d'un certain nombre d'heures par jour et vous proposer de faire intervenir un service d'aide à domicile, comme il y en a ici sur le salon. Mais il y a aussi la possibilité de faire de telle sorte que vous soyez, vous, en qualité d'aidant de proche, d'être rémunéré au travers donc de l'enveloppe qui sera attribuée. Et donc ça peut être partiel d'ailleurs, hein. Il peut y avoir un tiers qui vient d'un service à la personne, et puis vous qui viennent en complément, ou essentiellement vous, le cas échéant. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des montants par mois que peuvent représenter cette APA. Vous voyez que plus le chiffre du GIR se rapproche du 1, plus ce montant mensuel va être important. Donc comme je vous le disais précédemment, une fraction des montants que vous voyez sur l'écran pourront servir pour partie à l'intervention d'un service à la personne, ou intégralement, ou pour partie un service à la personne, mais une partie pour l'aidant de proche, ou voire éventuellement intégralement pour l'aidant d'un proche. Pas possible ce truc. Donc on était là sur le versus allocation personnalisée à l'autonomie, c'est-à-dire une personne âgée de plus de 60 ans. Et tout ce qui va être avant va éventuellement concerner le champ du handicap et notamment toute personne handicapée âgée au maximum de 75 ans. Alors, juste une précision. Si vous avez un proche qui est par exemple un handicap qui peut être reconnu, on encourage souvent les gens à mettre en place un dossier, notamment auprès de la MDPH, on le verra tout à l'heure, Maison départementale pour le handicap, parce que ça te permettra de bénéficier de ce qu'on appelle la prestation de compensation du handicap, on verra à peu près tout à l'heure, un peu plus loin tout à l'heure, mais qui comporte des volumes d'aide, et même sur le plan numéraire, autrement plus importants que par rapport à l'allocation personnalisée à l'autonomie. Dès lors que ce dossier a été déposé, la personne va en bénéficier, et bien au-delà d'ailleurs de l'âge de 60 ans, et bien même au-delà de l'âge de 75 ans. Mais on pourra en faire la demande, ou plutôt bénéficier de cette aide, jusqu'à l'âge de 75 ans. On y reviendra tout à l'heure si ce n'est pas suffisamment clair, mais il y a quelques subtilités dont il faut, qu'il faut connaître. Cette prestation de compensation du handicap est une aide personnalisée, donc qui correspond à la personne aidée et qui va venir financer les besoins liés à la perte d'autonomie, et on va retrouver tout à l'heure ce qu'on a vu tout à l'heure précédemment, tout ce qui est des actes de la vie quotidienne. Et là en l'occurrence, dès lors qu'on va être sur le champ du handicap et dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, tout ce qui va concerner éventuellement l'aidant de proche vont être ce qu'on appelle les aides humaines. pour accompagner un proche au quotidien dans les actes de la vie quotidienne. On a vu tout à l'heure, toilettes, habillage, déplacements, les repas. C'est ce qu'on appelle les aides humaines. Mais le plan d'aide peut être plus large que ça. Il y aurait les aides humaines, des aides matérielles, éventuellement l'aménagement du logement. Et là, encore une fois, l'enveloppe sera différente et peut être fractionnée en fonction des besoins. Et là aussi, les besoins de compensation sont déterminés par une équipe médico-sociale qui peut se rapprocher assez près de celle qui viendra évaluer la perte d'autonomie dans le cadre de l'APA qu'on a vu précédemment. Alors, la PCH, prestation de compensation du handicap, hein, va permettre de rémunérer un membre de la famille sous certaines conditions. On va voir qu'il y a deux cas précis où, d'une part, l'état de santé nécessite à la fois une aide totale pour les actes essentiels de la vie quotidienne et une présence constante. C'est dès lors qu'on est vraiment dans le registre d'un handicap très important. Et en l'occurrence, cette PCH va permettre de salarier tout membre de la famille, y compris son conjoint, concubin, partenaire, etc. C'est très large, contrairement à l'APA, hein, dont on a parlé précédemment, où le conjoint ne pourra pas être rémunéré. Par contre, la descendance, un enfant, une fille, dans ce cas, oui, ça sera le cas. Donc, vous voyez, il y a déjà une restriction par rapport au traitement des aides dans le champ du handicap où, pour le coup, c'est beaucoup plus large que dans le cadre de l'APA. Deuxième version, si l'état Si l'état de santé ne nécessite pas à la fois une aide totale aux gestes quotidiens et on a vu précédemment, hein, c'est une nécessité absolue. Et là, pour le coup, si ça ne nécessite pas, ça peut par exemple avoir besoin d'aide aux gestes de la vie quotidienne, mais pas forcément une présence constante et permanente. À ce moment-là, la personne handicapée ne pourra pas salarier son conjoint, hein, mais seulement rentrer dans une logique de dédommagement. On va voir que la différence est importante. Donc, cette prestation de compensation du handicap va rentrer dans le cadre des aides humaines, sur le champ du handicap donc, et va donc aider à rémunérer ou à dédommager les personnes, donc l'aidant ou l'aidante, pour les actes de la vie quotidienne qu'on a vus précédemment. Alors, on a vu tout à l'heure, hein, qu'il y avait deux catégories différentes, besoin d'une nécessité absolue d'aide au quotidien, et dans l'autre cas, où c'était une présence qui n'était pas forcément indispensable. Et là, en l'occurrence, si on doit réaffiner encore un peu les choses, il faut qu'il y ait au moins une activité essentielle. Ça peut être par exemple la toilette, hein. La personne est incapable, mais vraiment incapable, de faire la toilette toute seule. On va être donc dans une activité essentielle qui va être à réaliser par l'aidant. Ou donc une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités. Vous voyez la différence entre absolu et une difficulté grave. Il y a des subtilités qu'il est important d'avoir à l'esprit parce que ça va jouer considérablement sur le montant global à la fin. Alors, comme dans le cas de l'APA tout à l'heure, cette aide, ou plutôt cette enveloppe, qui va être là pour financer une aide humaine, peut être encore une fois, soit permettre à financer un service d'aide à la personne, comme on l'a précité tout à l'heure, soit à dédommager l'aidant de proche, on a vu tout à l'heure que ça pouvait être un membre de la famille, conjoint ou pacsé ou descendance. Alors, on va parler de dédommagement parce que vous voyez les montants tout de suite qui sont impressionnants, mais dans le sens négatif du terme, puisque on parle, vous voyez, de 50% du tarif du SMIC horaire, avec la possibilité de le majorer, vous voyez, ça monte, alors ça se rapproche du tarif horaire du SMIC, mais on n'est jamais sur des valeurs très importantes. Ceci étant dit, gardez à l'esprit que si dans le cadre de l'APA tout à l'heure, le montant est figé, on a vu que dans le meilleur des cas, c'était 1 300 € à peu près par mois, il faut que tout rentre dans ces 1 300 €. Par contre, sur le champ du handicap, on est sur un tarif horaire, mais le volume d'heures, lui, peut être considérablement plus important. Si par exemple, dans le cadre de l'APA, bon an, mal an, si... on peut bénéficier, ou plutôt la personne dépendante peut bénéficier de 2 heures par jour de financement d'une aide aux actes de la vie quotidienne, c'est parfois bien le maximum. Par contre, dans le cas du handicap, les choses sont bien différentes parce qu'on peut atteindre plusieurs dizaines d'heures par semaine. Et là, pour le coup, les montants sont beaucoup plus importants, vous imaginez bien. Alors, il y a malgré tout un plafond. Avec une subtilité, c'est que si excusez-moi, c'est un ordinateur qui en fait un peu à sa guise là. Voilà. Une particularité, là encore une fois, dans le champ du handicap, c'est que si la personne, si l'aidant doit cesser son activité professionnelle. Ce qui arrive assez souvent, dès lors qu'il y a une nécessité absolue, on l'a vu tout à l'heure, d'accompagner son proche, il peut y avoir donc une majoration montant maximum mensuel. Et là, vous voyez, on arrive sur un montant qui devient un petit peu plus raisonnable, entre guillemets. Alors il y a aussi un autre volet, c'est dès lors que un parent va accompagner son enfant jusqu'à l'âge de 20 ans, il peut bénéficier donc de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, qui pourra venir et même éventuellement en complément, mais un petit peu en amont de la PCH, et venir en complément éventuellement de cette PCH. Et donc on va avoir un petit traitement différent dès lors que l'enfant est, on va dire, jeune, jusqu'à l'âge de 20 ans, et au-delà, donc il va rentrer dans l'âge adulte. Alors, avant de terminer, dans tous les cas de figure, APA ou pas, PCH ou pas, on peut être rémunéré par un proche dès lors que le choix est fait au sein de la famille. Et ce sont des schémas qui se rencontrent parfois et qui commencent même assez régulièrement à se rencontrer lorsque, dans une famille, le choix est fait, par exemple, de quand un proche âgé a besoin de rentrer en maison de retraite, par exemple, et que le choix familial ne va pas dans ce sens-là, mais plutôt de garder son proche à la maison, eh bien, il est possible, dès lors qu'il y a un conseil familial, de décider que le proche restera au domicile d'un enfant, par exemple, sous réserve qu'on adapte ce domicile, et qu'à ce moment-là, la personne ou la famille mutualise des revenus pour financer le salaire d'un des aidants, donc qui pourrait être une des filles ou un des fils. Le fait donc de pouvoir bénéficier au travers du CESU, ça remporte quand même un certain nombre d'intérêts, puisque vous voyez que les sommes versées mensuellement, plutôt annuellement, sont bénéficient d'un plafond qui permet donc d'avoir une défiscalisation des sommes données et donc qui, dans certains cas, réduisent l'ensemble de l'enveloppe quasiment à 50% hein, des sommes investies. C'est quand même une approche intéressante. Avec donc un plafond maximum, dès lors que les personnes sont considérées comme vraiment invalides et très handicapées, avec un taux qui est donc au moins égal à 80%, ce plafond peut lui monter à 20 000 euros. Mais là, encore une fois, je vous engage à aller voir le stand du CESU si il est présent sur le salon. Je suis pas sûr de l'avoir vu. Quelqu'un l'a vu ou pas, non ? Bon voilà, écoutez maintenant, s'il y avait des questions qui restent encore en suspens, je veux bien y répondre.
Une maladie apparentée à Alzheimer, quand on a une personne de 87 ans, donc on peut bénéficier, si je comprends bien, de l'APA, enfin lui faire bénéficier de l'APA, mais... Si on aide en parallèle, on peut bénéficier de quoi ? Nous, personne. Moi, j'aide ma maman, je suis dans ce cas-là. Hein. J'embauche du monde pour l'aider, parce que je cumule mes enfants, mon travail, et je suis en déplacement. Mais en plus, le week-end, je lui fais tous ses papiers, toutes ses démarches administratives, etc. Oui. Est-ce que je peux bénéficier de quelque chose ou pas ? C'est toujours bénévole, je fais des courses, je lui fais... Oui, oui, oui. Ouais, ça me prend beaucoup de temps.
C'est dramatique, mais... Elle bénéficie de l'APA déjà, votre maman ?
Oui, ben oui, bon. Je ne savais pas, j'ai fait la démarche l'année dernière.
D'accord,
je
ouais.
Je ne savais pas qu'on pouvait bénéficier de ça. Et c'était moi, avant d'aller au travail, qui passais de faire sa démarche,
bon.
Etc.
Alors.
Et j'ai 3 enfants. Et j'ai...
Voilà, alors vous représentez l'archétype hein, de l'aidant overbooké. Bon. Ben oui, mais je comprends bien. Alors, vous directement, vous, sauf si vous faites le choix d'être rémunéré au travers de l'APA, mais ça va pas arranger, voilà, bon, ça va pas avancer les choses. Par contre, ce que vous pouvez chercher à faire, c'est d'augmenter le volume d'heures pris en charge auprès de votre mère. Parce que, si par exemple vous me dites, au travers de l'APA, la toilette est faite. Reprenons les choses à plat, plutôt mettons à plat la situation. Votre maman a un handicap, elle a une maladie. Cette maladie lui empêche de faire un certain nombre d'actes de la vie quotidienne, notamment la toilette, qui peut être considérée comme un soin. Dès lors que c'est un soin qui est prescrit médicalement, il peut être remboursé par la sécurité sociale. Ce qui le sort de l'enveloppe APA au bénéfice d'autre chose. Vous voyez ? Ça veut dire que elle bénéficie de combien d'heures d'APA par jour ou par semaine à peu près ou par mois ? C'est... Bon. Oui. Elle vient pas. Bon. Ah oui. Alors. Vous le ferez toujours gratuitement. Ce que vous pouvez essayer de faire, c'est d'augmenter le volume global d'heures... Non, non, attendez. Si, si. Bon, aujourd'hui, la toilette est faite dans le cadre de l'APA. Imaginez que vous sortiez la toilette de l'enveloppe APA. C'est-à-dire que vous faites faire la toilette par un service de soins infirmiers à domicile ou par une infirmière à domicile. Là, pour ça, c'est simple. Il suffit de prendre contact avec le médecin traitant. Vous lui expliquez que dorénavant, votre maman doit bénéficier de soins infirmiers à domicile. Et là, c'est une infirmière ou un infirmier qui va venir, par exemple, s'occuper d'elle pour faire la toilette, l'aider éventuellement à se lever ou à se coucher, à donner les médicaments. Ça, c'est du ressort du soin infirmier. Prescription médicale, remboursement sécurité sociale. Ah oui. Ensuite, l'enveloppe APA, elle reste la même au niveau du volume. Mais ça vous permet donc de bénéficier, par exemple, la demi-heure chaque jour ou qui servait à faire la toilette, par exemple, eh bien, elle peut, on peut faire glisser le curseur, vous voyez, et le déplacer sur l'accompagnement dans la journée et éventuellement mutualiser pour vous empêcher le mercredi ou éviter que le mercredi, vous ayez à vous déplacer, comme vous me le disiez précédemment. C'est un petit peu ça l'idée, c'est d'arriver à regrouper l'ensemble des solutions d'aide qui existent aujourd'hui. Il n'y a pas des masses, mais au moins d'arriver à les mutualiser. Hein. Et pensez même aussi, dans le cadre de l'APA, faire réviser régulièrement le niveau de dépendance. Hein, parce que elle a été chiffrée, pardonnez-moi du terme, combien votre maman ? Non, mais le montant du GIR, le niveau du GIR, c'est 1, 2, 3. Bon. Et il y a combien de temps ? Oui. Il y a combien de temps ? Ici, là, bon. Alors, sachez qu'on peut réviser régulièrement ou faire réviser le niveau de dépendance. Hein. Si par exemple, en général, ça peut être tous les 6 mois, normalement ça devrait être tous les ans, mais dès lors que, par exemple, votre maman, hypothèse, hein, il y a 6-7 mois, elle a été évaluée GIR 2. On a vu tout à l'heure, ça donnait un droit à un montant donné. Mais si par exemple, entre-temps, il y a eu, de votre point de vue, une majoration du niveau de dépendance, parce que la maladie s'est aggravée ou il y a eu une chute qui la rend un petit peu plus dépendante, à ce moment-là, vous avez la possibilité donc de faire revenir à votre demande et à votre initiative l'équipe médico-sociale pour une réévaluation, en expliquant les faits. Et cette évaluation va permettre éventuellement de passer du GIR 2 au GIR 1. Et à ce moment-là, vous avez vu que l'enveloppe était plus importante. Et donc, le nombre d'heures d'aide ou d'accompagnement pour votre maman pourra augmenter. Vous associez à ça une prise en charge de soins infirmiers, par exemple. Hein, et sachez bien que une infirmière peut intervenir pour la toilette, l'aide à l'habillage, les soins, la distribution des médicaments. Et c'est encore plus vrai dans le cadre de votre maman. Et d'ailleurs, ça sera même sans doute plus effectif et plus efficace de faire donner des médicaments ou les faire préparer par une infirmière plutôt que par quelqu'un qui n'a pas forcément cette formation. Hein ? Eh ben oui, c'est vous qui le faites, mais sachez que vous pourriez le faire parce que c'est prévu, c'est un acte médical qui fait partie de la nomenclature des soins infirmiers, qui est donc une prescription médicale et remboursée par la Sécurité sociale. Est-ce que vous avez, je vous en prie, vous avez d'autres questions ? Oui ? Et dédommagement. Voilà. Rémunération, vous êtes salarié. Dédommagement, c'est un dédommagement numéraire, vous n'êtes pas salarié. Salarié, vous êtes déclaré, hein, ça veut dire qu'il y a tous les avantages qui sont liés, vous avez un statut de salarié. Dans l'autre cas, vous n'avez pas ce statut-là. Hein. Ah ben oui. Je vous en prie. Alors, l'APA est un droit universel. Tout le monde y a droit. Par contre, effectivement, en fonction du montant de revenus de global de retraite annuelle, il y a un plafond qui va venir impacter effectivement le montant global à la fin. Hein. Mais il y aura toujours une partie dont il pourra bénéficier. Mais c'est vrai, votre question est juste. Si c'est quelqu'un qui a de très forts revenus, eh bien, arriver à un certain plafond, j'ai pas en mémoire, hein, mais qui existe, le montant de cette APA va varier. Alors plutôt, va être le même, parce que le niveau du GIR, c'est lui qui détermine le montant. Mais une fois que ce montant est déterminé, c'est le plafond qui, lui, va venir l'impacter. Hein, vous voyez